La grève des transporteurs routiers sur l'axe Boma-Matadi, Kinshasa, se poursuit malgré la demande du ministère de Travail de la lever depuis samedi dernier. Plusieurs milliers de dollars de manque à gagner selon les opérateurs économiques et des manques à gagner qui risquent d'être répercutés sur les marchandises dès la levée de la grève. Et puis la RDC n'a pas besoin du Fonds monétaire international pour bâtir un programme macroéconomique. Le ministère des Finances, du Budget et la Banque centrale du Congo en ont convenu mardi. Des détails dans cette émission. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a agréé 145 projets en 2012 pour un coût global de plus de 4 milliards de dollars américains et devant engendrer environ 20 000 emplois. Vous écouterez dans cette émission Boboa Kayembe, DG de l'ANAPI. Panorama économique, c'est l'actualité économique de la semaine analysée et commentée par un invité. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Sekana, un habitué de cette émission. Jérôme, bienvenue dans cette émission et bonne année 2013.
Merci et bonne année à tout le monde.
Jérôme est analyste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Devant ses micros, Jocelyne Moussaou et Agathe Pona pour la présentation de Panorama économique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Panorama économique, le dossier.
C'est depuis deux semaines maintenant que les transporteurs routiers effectuant la route Kinshasa-Bakongo sont en grève. La situation a engendré plusieurs conséquences économiques. Guy Roger Nyampala, depuis Matadi.
La grève en question n'est pas levée. Après l'échec de premières négociations entre les syndicats de transporteurs, les patrons des entreprises de transport et le ministre du Travail, une seconde rencontre se tient depuis lundi dernier à Kinshasa. Jusque-là, aucun changement n'est observé sur le terrain. Pas de mouvement de véhicules poids lourds. Conséquence, le port de Matadi, Boma et Banana sont engorgés à ce jour. Il n'y a pas de sortie ni d'entrée de véhicules. 5 navires de vivres frais et autres produits sont au mouillage dans l'attente de décharger leur cargaison. Les services de douane parlent de plusieurs millions de dollars de manque à gagner pendant près de 10 jours de grève. Même constat du côté de la Fédération des entreprises du Congo qui évoque également des millions de dollars de manque à gagner. Des plaintes similaires sont également signalées chez les transitaires, des services publics opérant dans les postes frontaliers et aux postes de péage. Au niveau du marché, une flambée de prix de certains produits s'observe déjà. Bref, c'est toute la province du Bas-Congo qui est affectée par cette grève des transporteurs routiers. Toutes les structures provinciales du Bas-Congo regardent maintenant vers Kinshasa, d'où viendra la solution. A titre de rappel, sachez que les chauffeurs et les convoyeurs des véhicules poids lourds effectuant la route Kinshasa-Matadi réclament entre autres l'augmentation de salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Matadi, Guy Roger Nyampala.
Merci Guy Roger Nyampala. On se tourne directement vers notre invité, Jérôme Sekana. Cette situation de grève commence un peu à tirer en longueur et risque d'avoir des conséquences très fâcheuses. À Kinshasa, déjà on parle de la rareté de certains produits importés, la rareté du pain, due aussi à la rareté
de la farine de froment.
La boulangerie Pain Victoire a réduit la production de ce pain. Beaucoup de conséquences dues à cette situation de grève de transporteurs.
Sans compter, bien sûr, les produits agricoles qui nous viennent de cette province.
Voilà, il fallait s'y attendre parce que, vous le savez, il ne faut pas trop compter sur les transporteurs routiers lorsque vous avez un chemin de fer. Le chemin de fer transporte facilement et à moindre coût les marchandises. Bien sûr que les grévistes revendiquent les droits qui sont légitimes, parce que ce qui est à la base de cette grève, c'est leurs conditions de travail. On leur paye un salaire modique. Il y a ceux qui touchent, par exemple, 20 000 francs congolais par voyage comme prime. Ce n'est pas normal pour les gens qui conduisent de gros véhicules. Et on leur accorde des primes qui ne peuvent pas leur permettre même de s'y loger. Les autres dorment dans des conditions bizarres, même les sols, il n'y a pas de latrines et tout ça. Et il faut constater d'abord que le salaire n'est pas uniforme au sein de toutes ces sociétés qui transportent le marchandise. Il y a des sociétés qui payent assez bien et d'autres qui ne payent pas assez bien. Et il faut reconnaître ici que ce qu'ils revendiquent est légitime dans la mesure où ils exigent d'obtenir entre 500 et 1500 dollars comme salaire. Pour eux, les salaires doivent être consistants pour leur permettre de nouer les deux bouts du mois.
Mais pourquoi le gouvernement ici semble ne pas arriver à imposer cette volonté auprès des employeurs ?
Le gouvernement ne peut pas imposer auprès des employeurs dans la mesure où c'est un contrat qui existe entre les travailleurs et les transporteurs routiers.
Mais c'est le ministère du Travail qui est censé protéger.
Le ministère du Travail est censé protéger, mais les conditions dans lesquelles travaillent ces gens ne permettent, ne sont pas les meilleures. Ainsi, le gouvernement peut s'impliquer pour faciliter la médiation, pour faciliter plutôt la compréhension entre la partie de grévistes et les transporteurs. Au moment où nous parlons, par exemple, c'est samedi, le gouverneur intérimaire de la province du Bas-Congo, Deon Kousou, est en train de discuter avec les grévistes pour obtenir ne serait-ce qu'un service minimum.
Parce mais est-ce que si au niveau national, on n'a pas,
national,
on a pas su résoudre
au niveau
le problème,
national,
au niveau provincial,
ça sera le lundi. D'ailleurs, même ils ont dit même dimanche ils peuvent venir, ils vont faire mouvement. Ça sera le lundi qu'ils vont se retrouver encore avec le gouverneur intérimaire pour essayer de voir comment ils peuvent émettre sur la même longueur d'onde. Parce qu'ils font en moyenne entre 8 et 10 voyages.
Par
mois. Et lorsque on les paye, ils regardent ce qu'ils dépensent. C'est vraiment, ils ne restent pas avec grand chose.
Et la valeur
et ils
de
sont
bien
des pères
des
familles
oui.
Et il paraîtrait d'après mes sources à Matadi, leur contribution au niveau de l'INS, hein, de l'INSS, voulais-je dire, sont détournées. Donc, ils n'ont pas d'avenir social. Après ce travail-là, ils risquent de se retrouver dans des conditions. Alors, pour eux, il faut nécessairement... Et
mais
ça,
le
ce
ministère...
sont les propos de Tchikoji, mm-hmm. qui est le président de grévistes, qui est en train de négocier. Il dit que si on améliore les salaires, par exemple, on accorde 1000 dollars. Pourquoi ? Parce que il parle de 1000 dollars, l'équivalent en francs congolais, tout simplement parce que un conteneur de 20 pieds paye... Des Matadi jusqu'à Kinshasa, c'est 2500 dollars. Un conteneur de 40 pieds, c'est 3000 dollars. Donc, ils se disent, et ils transportent ça, et c'est une responsabilité. Et lorsque vous perdez du carburant, vous payez. Lorsqu'un pneu crève, vous devez arranger à vos frais. Alors, ils se disent, non, ils sont payés à monnaie des singes. Il faut nécessairement qu'on leur reconnaisse le travail qui est risqué. Hein, quand vous avez un travail comme celui-là, la plupart sont souvent malades, ils ont des hémorroïdes, parce que ce n'est pas facile de conduire sur cette route-là.
Mais entre-temps, le ministère avait tranché, on se souvient le week-end passé, il y a une semaine, le ministère avait tranché, mais ça
ne les a pas satisfaits.
Le ministère
a voulu imposer. Le ministère n'a pas tranché. Le ministère a voulu imposer, dit « reprenez », sans toutefois résoudre le problème des fonds. C'est pourquoi ils disent non.
Le gouvernement n'est-il pas, semble impuissant?
Non, il n'est pas. Non, nous sommes convaincus que le lundi prochain, en tout cas, ils trouveront un compromis. Dans la mesure où cette crise met en difficulté et les transporteurs et les grévistes. Parce que la pénurie à laquelle vous faites allusion découle de cette situation.
Sans
et même
l'engorgement
du port, ça a des conséquences désastreuses en ce qui concerne la maximisation des recettes. Donc il faut décanter la situation rapidement. Il faut améliorer les conditions de travail de ces compatriotes-là. Quand quelqu'un fait un bon boulot, il faut les rémunérer à la hauteur de sa tâche.
On espère vraiment qu'une solution sera trouvée à ce problème. Nous passons au deuxième dossier de la semaine. Le gouvernement congolais veut bâtir un programme autonome de l'économie congolaise dans son ensemble, en l'absence de la coopération avec le Fonds monétaire international.
Ainsi, on a décidé la Troïka, composée du ministère du Budget, des Finances et de la Banque centrale du Congo, qui s'est réunie mardi à Kinshasa. Les pourparlers avec le FMI sont en perspective, mais en attendant, la RDC peut compter sur la stabilité de sa macroéconomie et sur les experts nationaux. C'est en tout cas ce que disait Daniel Moukoko Samba au micro de Daniel Tambinzoni.
L'une des plus fortes recommandations que nous avons prises, c'est de bâtir un programme macroéconomique tout à fait autonome. Nous ne sommes pas aujourd'hui un programme avec le Fonds monétaire international, mais nous continuons à fonctionner sur une base saine de gestion macroéconomique sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire. Cette fois-ci, nous allons formaliser cela. Donc, nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir en face de nous le Fonds monétaire pour bâtir un programme macroéconomique. Nous avons des experts congolais qui savent le faire et nous avons donc convenu de formuler un programme autonome. Puisqu'il est envisagé une prise de contact avec le Fonds monétaire international, lorsque le Fonds monétaire va reprendre contact avec nous, il nous trouvera avec un programme en bonne et due forme.
Voilà, Jérôme Sekana, que pensez-vous de ce défi que se lance le gouvernement congolais?
Eh bien, c'est une bonne chose. Mm-hmm. Ce n'est pas la première fois que nous fonctionnons avec un programme autonome. En 2000, souvenez-vous, le programme intérimaire renforcé, c'était un programme autonome. Et nous l'avions exécuté avec succès. C'est ça qui avait poussé d'ailleurs la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à revenir en République démocratique du Congo et décider de la reprise de la coopération structurelle entre la RDC et les institutions de Bretton Woods. Et nous avons eu la chance dans ces pays d'avoir Matungulu Mbuya Moulankir comme ministre des Finances, qui avait obtenu de la Banque mondiale les financements qui nous avaient permis d'appuyer nos arriérés à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la BAD, et automatiquement nous étions éligibles au Fonds PPTE qui nous a conduit jusqu'au point d'achèvement au 30 juin 2010. Donc, c'est une bonne chose. La stabilité du cadre macroéconomique est là. C'est ça le socle même de notre économie pour le moment. Ce qu'il faut faire, il faut éviter des dépenses extra-budgétaires, il faut une gestion sur base caisse. Il faut éviter de pouvoir encore retomber dans les erreurs du passé. Je suis content d'une chose parce que les experts du Fonds monétaire international sont attendus. Le gouvernement a repris langue avec les institutions de Bretton Woods, en particulier les Fonds monétaires internationaux. Le Fonds monétaire international qui a reconnu les efforts du gouvernement congolais.
Il le reconnaît toujours, il faut le dire,
parce que c'est le taux de croissance économique de 7.2 que nous avons connu est parmi les plus forts de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, la Banque mondiale a applaudi de deux mains, a dit si ça ne dépendait que de la Banque mondiale, on n'allait pas rompre la coopération, on n'allait pas rompre le programme économique dans la mesure où tous les indicateurs étaient au vert.
Oui, mais une question, c'est peut-être celle de savoir si le programme économique avec le gouvernement avec le FMI avait été mené correctement jusqu'au bout. Est-ce que le gouvernement aurait tenu un tel langage aujourd'hui?
Non, le problème, il faut faire la part des choses. En tout cas, la RDC, pour la première fois, a été une bonne élève du Fonds monétaire international dans la mesure où tous les critères ont été remplis. Tous les indicateurs étaient remplis et avec succès. Le problème, c'est à cause de la gouvernance minière. On a publié avec retard, et vous avez suivi la lettre de la directrice de la Banque mondiale pour l'Afrique, elle avait dit que non, ce que vous avez publié n'a pas convaincu. C'est pour cette raison que nous disons que... Donc, c'est en quelque sorte une décision politique. Donc c'était une façon aussi, ceux qui nous font la guerre, par exemple à l'Est, ont pesé de tout leur poids au niveau des institutions de Bretton Woods. Mais il ne faut pas vous faire des illusions. Même au sein de la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, il y a la politique. Et les politiques se jouent à ces niveaux-là pour essayer de mettre les partenaires en difficulté.
Donc vous pensez que la décision du FMI...
C'était politique. C'est comme si vous avez un élève, vous dites, écoutez, pour passer des classes, vous devez avoir 90% de points, ou même 100% de points. Et l'élève réussit 95-98% de points.
Et la transparence dans les secteurs miniers.
Écoutez, 95% de points, et parce qu'il est arrivé en retard le jour de la proclamation, vous dites que non, parce que vous êtes arrivé
en
retard.
Non, mais ma question à la base était celle de savoir, aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir prôner l'autonomie. Il est capable de mener son programme sans le FMI et tout ça. Oui. Mais est-ce qu'il aurait tenu ce même langage si, effectivement, le contrat précédent ne s'était pas soldé en catastrophe?
Bien sûr.
Comme
que,
ça a été le cas.
Bien sûr que, parce que les Fonds monétaires internationaux conseillent le gouvernement. Le gouvernement n'a pas l'obligation
de travailler avec le Fonds monétaire international. Les experts du Fonds monétaire international viennent chez nous à la demande du gouvernement. Et le gouvernement est chargé de signer ce qu'on appelle la lettre d'intention, dans laquelle le gouvernement dit « je vais faire ça, 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 conformément au cahier des charges du Fonds monétaire international ». Ce n'est pas une obligation. Nous pouvons nous passer du Fonds monétaire international, nous pouvons nous passer de la Banque mondiale si et seulement si nous avons un cadre macroéconomique stable, si nous produisons, si nous maximisons les recettes, nous pouvons nous passer. Il y a des pays qui ne sont pas en programme avec le Fonds monétaire international et qui se sont développés.
Mais est-ce qu'à la fin, est-ce que ce n'est pas la population qui va un peu souffrir de cette
Je idée? Suis vraiment désolé de constater que la population a serré la ceinture depuis très longtemps
et
continue à serrer la ceinture. Et en tout cas, c'est malheureux, mais on nous a retourné encore à la case du départ. On aurait dû éviter toutes ces choses à notre population.
Dans tous les cas, on aura besoin du FMI un jour ou l'autre.
Bien sûr, parce que le problème avec le Fonds monétaire international, c'est quoi? Parce que si nous ne sommes pas en programme avec les institutions de Bretton Woods, il y a des mauvaises conséquences. Des conséquences qui sont lourdes dans le cadre de ce qu'on appelle le climat des affaires. Donc nous serons indexés comme un pays qu'on ne peut pas fréquenter. Parce que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce sont les locomotives de la communauté internationale en matière de l'économie. Lorsque le Fonds monétaire international dit que ce pays-là a un taux de croissance d'autant, il y a la stabilité du cadre macroéconomique, eh bien tous les bilatéraux viennent. Ils suivent ce que le Fonds monétaire international dit de vous. Pas ce que vous vous dites de la communauté internationale.
Voilà. 145 projets ont été agréés en 2012 par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et pour un coût global de plus de 4 milliards de dollars américains et devant engendrer environ 20 000 emplois.
C'est le bilan dressé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements pour l'année qui vient de s'achever. Du point de vue du coût des investissements, l'ANAPI a été plus performante par rapport à l'année précédente. En 2011, 150 projets ont été agréés pour un coût seulement de 2 milliards de dollars. En dehors des projets agréés par l'ANAPI, plusieurs délégations d'hommes d'affaires étrangers ont visité la RDC. Les secteurs de l'immobilier, des télécoms et de l'industrie sont les secteurs qui ont le plus attiré des investisseurs. Le secteur de l'agriculture, quant à lui, est resté moins attrayant.
Mais que faut-il pour susciter l'intérêt des hommes d'affaires pour ces secteurs? Le professeur Mathias Boabawa-Kayembe, directeur de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous répondait lundi dernier.
Oui, il y a beaucoup de préalables qui ne dépendent pas de l'ANAPI. Et en ce qui concerne l'agriculture, par exemple, il y a le préalable des routes normales ou bien des routes de dessertes agricoles. Il y a le préalable de l'accès à la terre. Les gens voudraient bien faire l'agriculture, mais ils ont besoin de la terre. Il y a le préalable de l'accès au financement. Ça demande de l'argent. L'accès aux équipements, les tracteurs et autres. Et il y a le préalable de la formation, etc. C'est vraiment l'ensemble de la population congolaise qui doit s'impliquer dans cette dynamique-là pour que nous puissions avoir des résultats. La formation, par exemple, c'est un élément capital. Ce n'est pas nécessairement la formation dans le domaine agricole, mais c'est la formation en général, là, même en droit, en économie et tout ça. Ça permet d'avoir des gens qui peuvent accepter de faire l'agriculture, qui ont des prérequis pour entrer dans l'agriculture. Alors que la majeure partie de notre population qui n'est pas formée est faite de gens qui par définition ne peut pas faire l'agriculture à grande échelle.
Voilà, 2012 vers sa fin a été marqué par l'occupation par les rebelles du M23 de la ville de Goma, qui est une ville aussi importante du point de vue économique, et cela a affecté le monde des affaires, notamment les actions de la société minière Banro, qui ont chuté à la bourse de Toronto. Les compagnies aériennes et autres ont enregistré des manques à gagner suite à cette situation. Et toujours en 2012, la RDC a été mal cotée dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale, qui cote les économies du monde où il est facile de faire des affaires. Est-il possible, dans toutes ces conditions, de vendre une bonne image du pays dans les buts d'attirer les capitaux étrangers?
Oui, bon, écoutez, ceux qui sont en train de faire le désordre à l'Est là-bas, en fait, ils pensent qu'ils peuvent nous empêcher de faire notre travail. En tout cas, moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire et j'ai continué à recevoir les investisseurs et tout, à leur expliquer, à les accompagner comme si de rien n'était. Bon, maintenant, tout ça, c'est ce qui fait que parfois les rapports de la Banque mondiale et autres, mais la même Banque mondiale a reconnu que nous avons fait des taux de croissance de 7,2%.
Mais le rapport ne prend pas en compte le cadre macroéconomique.
Il ne prend pas en compte le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique est là. 7,2, c'est parmi les premiers pays en Afrique qui se sont bien portés sur le plan économique. Mais, écoutez, on le lit, on l'écoute, on cherche à s'améliorer, à travailler pour que on puisse aller de l'avant.
Mais est-ce que les investisseurs sont toujours aussi intéressés par la RDC?
Les vrais investisseurs qui s'intéressent au Congo, celui qui va avoir ses minerais, il a besoin de ses minerais malgré la guerre, là. Il a besoin de sa concession minière. Donc les gens cherchent à se positionner. Nous ne sommes pas les seuls dans ces positions-là. Il y a plusieurs pays africains dans ces positions-là. Nous connaissons que l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de problèmes. Les infrastructures ne sont pas là. C'est vrai, la sécurité juridique laisse à désirer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits problèmes. Mais, mon Dieu, je crois que l'Afrique fait rêver beaucoup de gens aujourd'hui. C'est le continent où on enregistre le taux de croissance le plus élevé dans le monde. C'est le continent où on n'a pas encore fait des affaires. Donc, moi, je vais continuer à demander aux investisseurs de venir.
Jérôme Sekana, on a suivi le directeur général de l'ANAPI, professeur Bobo Akaembe. Que vous inspire ce rapport 2012 des investissements en RDC et surtout le propos du DG de l'ANAPI?
Oui, l'ANAPI fait du bon boulot. L'ANAPI a été même primée au cours de l'année 2012. Ce qui est vrai que l'ANAPI doit aller plus loin. Nous avons un guichet unique à l'ANAPI, mais qui ne fonctionne pas, qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière.
C'est-à-dire n'y a-t-il pas assez d'investisseurs?
Non, il y a assez d'investisseurs, mm-hmm. mais le temps qu'on met pour ouvrir une société en République démocratique du Congo, on prend beaucoup de temps.
Ça fait 7 jours.
Nous, on peut arriver même à un mois. Ça dépend. Donc, il faut réduire sensiblement.
Alors que le but
c'est un indicateur, c'est un indicateur très important. Si nous pouvons arriver à constituer des entreprises
en 3 jours,
en 48 heures, ça c'est bon.
Mais qu'est-ce qui
ça c'est un élément. Oui. Ça, bon, l'ANAPI, il a dit là-bas, il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas de l'ANAPI. Il faut que le gouvernement s'implique. Il faut que il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Mais il faut également regarder les codes d'investissement. Moi, j'ai dit, nous perdons 30% des recettes à cause des exonérations. Et là, une bonne partie de ces exonérations découle des avantages que confèrent les codes d'investissement aux nouveaux investisseurs. Et on en abuse. C'est l'abus que moi, je dénonce pour certains opérateurs économiques qui sont déjà installés et qui importent certains matériels et qui trichent avec le texte pour dire que, écoutez, ça c'est un nouvel investissement alors qu'il n'en est pas un. Donc, il y a du travail à faire. Je vous donne un chiffre en ce qui concerne, par exemple, la DGDA qui mobilise en moyenne 100 milliards de francs congolais par mois de recettes. Donc, la DGDA aurait dû mobiliser chaque mois plus ou moins 130 milliards de francs congolais. Donc, 30% des recettes qui mobilisent la DGDA se volatilise comme ça à cause des exonérations et dont la majorité de ces exonérations découlent des codes des investissements. Donc, il y a moyen d'améliorer les choses. Il faut que les gens viennent investir chez nous. Et puis, l'ANAPI. Le gouvernement n'a pas la politique de promouvoir les Congolais, les investisseurs congolais. Quand vous allez sur l'avenue du commerce, nous n'avons plus des Congolais.
Mais c'est un problème de financement, on le connaît.
Non, ce n'est pas seulement un problème de financement. On pouvait accorder des facilités à ces Congolais. Au jour d'aujourd'hui, un Congolais ne peut même pas importer. Quand bien même il est là, il a l'argent. Posez la question à l'EDIA, il vous dira quoi? Vous ne pouvez pas aller acheter les chiens chats en Namibie. Un Congolais ne peut pas aller acheter les poulets au Brésil.
Il y a des monopoles
et des monopoles qui sont entretenus par certaines autorités qui vivent dans les poches des opérateurs économiques. L'économie de la République démocratique du Congo est à plus de 80% entre les mains des expatriés. C'est anormal. Donc, il faut même revoir les codes d'investissement. Il faut accorder des facilités. Il faut une politique pour promouvoir. Nous n'avons pas des milliardaires ici, congolais. Il n'y en a pas. Nous sommes en train de fabriquer des milliardaires expatriés.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres nouvelles de la semaine en bref, gestion des appels téléphoniques venant de l'extérieur avec le code 243, indicatif de la RDC. Le ministre des Postes, Téléphones et Intique a déclaré lundi à Radio Capi que les matériels pour assurer le contrôle de ces codes sont déjà à Kinshasa.
Une concrétisation selon lui de l'accord financier passé le 11 novembre dernier entre le gouvernement congolais, représenté par son ministère, et un consortium franco-américain, Agilis International et entreprise Télécom. Le ministre Kinke Mulumba souligne que cette fraude du code 243 fait perdre à la RDC 12 millions de dollars chaque mois, l'argent qu'il pourra gagner si ce projet dénommé Gateway est mis en marche. Mais alors qu'il est, le dossier se situe au niveau de la rétribution entre les parties signataires de l'accord.
Jérôme Sekana, un commentaire à faire.
Vous savez, c'est une bonne chose de demander au privé de venir nous aider, mais c'est du gâchis. Pourquoi je parle du gâchis? Parce que le gouvernement avait sorti l'argent. Nous sommes ici en train de parler de la taxe de régulation qui est assise sur les appels entrants. Donc, vous vous souvenez, nous avions parlé de cela dans cette émission. On avait expliqué comment chaque appel entrant génère 20 cents et dans les 20 cents, 15 cents appartiennent à la société qui finalise l'appel et 5 cents revient à l'État congolais. Mais le gouvernement avait sorti 8 millions de dollars. Le matériel se trouve ici, au niveau de la RDC. Pourquoi on doit commander d'autres matériels? Et le problème se trouve au niveau de la rétribution. Cette rétribution-là, l'État doit avoir le gros. Ce n'est pas parce que les gens ont amené du matériel que nous avons encore ici, qu'on n'a pas utilisé jusque-là, qu'ils peuvent dire qu'ils peuvent prendre les 80%. C'est de l'arnaque.
La GECAMINE affirme avoir atteint ses objectifs de production pour l'année 2012, soit 35 015 tonnes de cuivre.
Cette production devrait passer à 50 000 tonnes en 2013 et 100 000 tonnes de cuivre en 2015. Pour l'administrateur délégué de la GECAMINE, c'est une conséquence positive de la réhabilitation et modernisation des outils de production. Mais sur le plan social, l'intersyndicale demande encore plus d'efforts des responsables de la société afin d'améliorer la vie des travailleurs. L'administrateur délégué a dressé ce bilan il y a une semaine au cours d'une cérémonie d'échange de vœux de Nismaéo.
En 2012, la GECAMINE a repris son projet de prospection des nouveaux gisements miniers car tous les anciens ont été cédés à ses partenaires. Ainsi, dans la partie de Likasi, Kambove et Kolwezi, elle a confirmé des gisements d'une valeur de 800 000 tonnes de cuivre. Au sujet de la production, elle a été en 2012 de 35 015 tonnes de cuivre et en 2013, elle devrait aller jusqu'à 50 000 tonnes de cuivre. Au niveau des partenariats, l'administrateur délégué affirme que GECAMINE a décidé de ne plus créer des joint ventures. Kalej Kant, administrateur délégué de la GECAMINE.
Plusieurs actions ont été menées et ont abouti à la récupération totale de la société CMFK par le rachat des parts sociales du partenaire EGMF et à l'acquisition par GECAMINE SARL de 20% de la raffinerie de Gobal en Finlande. D'autres opérations de récupération des gisements sont en cours.
Au plan social, la GECAMINE dépense par mois 10 millions de dollars pour les 11 350 agents actifs. Cette paye est devenue régulière. Même les arriérés de salaire sont en train d'être apurés, ce que reconnaît l'intersyndicale de la GECAMINE. Mais elle demande aux responsables encore plus d'efforts. On écoute M. Linza, président de l'intersyndicale.
Votre dernier geste qui a secoué les salaires d'une partie des travailleurs est à poursuivre en évitant de créer des mécontentements. En vous penchant plus au groupe Centre et au groupe Ouest, n'oubliez vraiment pas les groupes Sud.
Réponse de l'administrateur délégué de la GECAMINE, il faut 134 millions de dollars pour réaliser le plan social. Au sujet des contrats signés entre la GECAMINE et ses partenaires, notamment celui de Comidé, dont on reproche à la société le manque de transparence, l'administrateur délégué de la GECAMINE ne s'est pas exprimé là-dessus. Lubumbashi, Denise Mayer, Radio Okapi.
Avant d'écouter la chute de Denise, j'allais dire que la GECAMINE est en train de fournir quand même un peu d'efforts.
Oui, les plans d'action de la GECAMINE est intéressant.
Sur la transparence aussi.
Non, sur la transparence, il y a encore du travail à faire. Parce que vous savez, si on a raté, je ne cesserai jamais de le dire, si on a rompu avec le fonds monétaire, c'est parce que les autorités de la GECAMINE ont traîné le pied. Mm-hmm. Bien sûr qu'ils font du bon boulot, les responsables de la GECAMINE. Et les plans d'action sont là, les résultats sont là. Vous savez, à quelque chose malheur est bon, n'eût été le fait qu'on a commencé à tirer à boulet rouge sur la GECAMINE. Aujourd'hui, la GECAMINE commence à dire un peu ce qu'elle fait. Moi, j'ai suivi sur Euronews, même un spot. Mais les autorités de la GECAMINE doivent savoir que quand bien même la GECAMINE est devenue une société commerciale, elle appartient à l'État congolais.
À 100%.
Elle appartient au peuple congolais. Et ses responsables ont l'obligation de rendre compte au peuple congolais. Ils ne doivent pas gérer ça comme ça. Non, c'est pour cette raison que chaque Congolais a le droit de se poser une question. Quand ça ne va pas à la GECAMINE, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même 16 000 travailleurs là-bas. Nous avons de faire. Donc c'est notre patrimoine commun. Donc les autorités de la GECAMINE ne peuvent pas dire que quand nous disons que voilà, nous avons raté, nous avons interrompu notre programme avec le Fonds monétaire international à cause de la GECAMINE, que nous les en voulons. Non, nous voulons qu'ils fassent du bon boulot. Ils ont un bon programme, ils doivent l'exécuter à la lettre, mais en tenant compte des règles de la bonne gouvernance. Lorsque l'État propriétaire a des engagements avec le Fonds monétaire international, demande des renseignements, vous ne pouvez pas bouder. Vous donnez les informations, vous demandez les informations à 10 heures, vous les donnez à 10 heures. Mais il ne faut pas attendre plusieurs semaines par après. Et quand les informations arrivent, c'est trop tard. La décision est déjà prise au niveau de New York, de Washington.
Voilà, Jérôme Sekana, c'est sur ces paroles que prend fin Panorama économique de ce samedi. Merci d'avoir fait les déplacements pour le studio de Radio Capi. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'actualité économique à partir de lundi, 18h15, heure de Kinshasa. Panorama économique, c'est samedi prochain, midi et demi. Bon week-end en compagnie de programmes de Radio Capi.